la libre antenne d'Europe 1.
Et nous accueillons Colette, au 39-21. Bonsoir Colette.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Colette?
De...
La région.
La région,
oui.
Calvados.
Calvados, d'accord.
Voilà.
Alors dites-moi ce qui vous amène Colette.
Ah ben disons que c'est... Ce qui m'amène, c'est que je voulais raconter un peu... la vie que j'avais eue pour un peu éclairer quelquefois les gens qui vont se marier ou des trucs comme ça, voilà.
D'accord.
Alors voilà, donc premièrement je suis orpheline de père et de mère. J'ai mon papa, je ne l'ai pas connu, il a été tué à la guerre 38 et 38 à la guerre l'année dernière.
Oui.
Et maman est décédée de la tuberculose en 46. Alors j'ai été élevée par un oncle et une tante, on était deux, mon frère et moi. Et puis bon, la vie s'est faite tranquillement, disons jusqu'à mes 20 ans que je connaisse mon mari. Voilà, alors, parce que j'étais une personne gay et tout ça, et donc ça allait très bien, jusqu'à ce que je me marie. Et donc j'ai rencontré mon mari, et c'était un bal de campagne. Il m'a fait danser presque toute la soirée, et puis, bon... C'était à ce moment-là, c'était encore le tango des dames. Et la jeune femme qui m'avait emmenée me dit, écoute Colette, je t'ai amené avec mon scooter, si tu veux, danser le tango, que je me laisser le tango des dames, j'irai danser. Avec son copain, elle connaissait. Alors, je dis, si tu veux, ça m'embêtait un peu, mais enfin, c'est un peu la chose normale quand on vous fait danser de redonner. Alors bon, elle a été dansée et puis la danse se termine et puis moi je me retourne et je vois qu'il était en train de rouler la pelle à la fille. Alors je ne dis rien et puis dans l'entrefaite je n'ai rien dit. Dans l'entrefaite j'ai aperçu des copains qui se trouvaient sur la fête. Et j'aurais demandé qu'ils me ramènent là où je travaillais. Alors, ils m'ont dit, oui, bien sûr. Alors, donc, je suis allée le trouver après. Et puis, je lui ai dit, c'est pas la peine de chercher une voiture pour me ramener. Parce que j'ai des amis qui sont là et qui vont me ramener. Alors, donc, c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, je travaillais dans un café. Donc, il s'est trouvé lendemain matin au café, là où je travaillais. Et donc, comme je servais, j'ai été lui demander ce qu'il désirait. Il m'a dit, bois un café. Je l'ai servi, et puis voilà. Ils sont restés là. Et puis, mais il a continué, il a insisté. Alors, on est sortis un petit peu ensemble. Et puis, ça a duré un mois, comme ça, et il s'arrête et puis il me dit, il veut me parler, il me dit, écoute, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu voudrais te marier avec moi? Ça faisait un peu court. Alors,
Pourquoi ça vous faisait bizarre?
Ben, oui, ça faisait un mois qu'on se connaissait.
Ah oui, oui. Bon, il y en a qui, à l'époque, étaient plus rapides que ça, vous savez.
Ah oui, mais ça a duré un mois qu'on aille au bal, au truc comme ça. Et au bout d'un mois, il m'a demandé si je voulais l'épouser. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Puis je lui ai dit oui. Alors, naturellement, ça a été le questionnement... si j'étais vierge, si j'ai dit non, combien de garçons que j'avais eu. Si alors je lui dis, et puis le nom avait été, il fallait
oula, ça partait mal là. Ça partait mal.
Ah mais ça a parti mal, ça.
Oui.
Je lui ai dit, et puis alors de ce fait, il me vous voyait, il m'a tutoyé. J'avais plus le droit au vouvoiement.
Ah oui, là c'était terminé.
Oui.
Vous aviez dépassé la limite de garçon, et donc là, plus de vouvoiement.
Non.
Alors, les hommes. Hein.
On a continué, et puis il était parti travailler à Paris parce qu'il avait fait son service militaire. Donc il était parti pour travailler à Paris, et naturellement, il a voulu m'emmener et tout ça. Mais j'ai dit, tu te rends compte, tu fais quitter mon travail, moi. Ça embêtait un peu, puis ça me plaisait ce que je faisais. Non, mais là, ça se compte à d'autres. Et puis, tu vas aller au bal. J'ai dit, c'est votre travail, il faut que j'aille servir à la salle des fêtes. Non, mais il n'y a pas eu moyen. Et puis, j'ai pas pu y aller parce que, je vais vous dire une chose, c'est ma patronne, elle faisait un anniversaire entre les commerçants et tout ça. Et on était tous la patronne payait le cassis et puis les commerçants payaient le champagne. Alors, naturellement, un coup de champagne, un coup de cassis, un coup de champagne. Et puis, moi, je voulais pas en boire, mais c'est qu'elle avait... Mais bien, vu le manège, elle m'a dit que non, Colette, tu bois. Puis à un moment donné, je dis, Colette, tu bois. Mais je dis, ça va pas, là, ça, j'ai la tête qui tourne. Alors, j'ai dit, je vais me coucher. Et j'ai été malade toute la nuit. Le lendemain, j'ai pas pu aller servir au bal. Et ce qu'il fait, ben, dans le coup, il était parti. Il a été très, très satisfait. Alors, donc...
Voilà parti pour Paris.
Et puis, on s'est connus en 57. Et... Je suis parti pour Paris en novembre 57 et on se mariait en juillet 58. Mmh. Et je m'attendais pas. J'avais bien vu qu'il était jaloux parce que je travaillais chez une patronne à Paris. Elle était dans les produits de beauté et tout ça, les crèmes et tout. Alors elle me dit que Colette, si tu veux, je vais te donner des crèmes pour que tu te mettes et tout ça. Je me mettais du rouge à lèvres un petit peu. Et oh ben, je lui dis, je veux bien, oui. Alors un soir, il s'abête parce que pas compliqué. Du jour où je l'ai connu, pas le jour quand même, mais 15 jours après, il m'a fait une entourloupe et il m'a dit, écoute, si tu pouvais, je vais te montrer où je couche, à l'hôtel où je couche, mais c'était encore dans le Calvados, là. Il m'a dit, je vais te montrer l'hôtel où je couche et puis pour que tu viennes me réveiller demain matin. Ben, j'ai dit, si tu veux, je te viendrai te réveiller demain matin. Il monte la chambre. Mais j'ai pas eu besoin de. J'ai réveillé le matin, mais j'ai pas eu besoin de venir le réveiller. Il avait décidé de coucher avec moi. Ça fait comme ça. J'ai pas eu de mal à le réveiller.
Oui, il vous attendait, quoi.
Voilà. Ah, mais c'était un piège qu'il m'avait tendu.
Oui.
Parce qu'il avait une. Il connaissait une femme dans le Calvados, et puis il lui avait dit. Et elle avait pas mieux fait. Mieux fait de faire, c'est du bromure dans son café.
Oula.
Mais c'est ce qui fait qu'il n'a plus rien faire.
Ah, d'accord. Bon, donc vous voilà parti à Paris, vous me disiez, vous travaillez.
Alors, je suis donc...
Il était jaloux.
Je vous disais la crème, là. Et le soir qu'il vient me chercher, je lui dis comme ça, je sens bon. Il me dit, non seulement tu colles, mais tu pues. Bon, ramasse ça, ma fille. Ah oui, oui. Alors donc, ça a duré comme ça pendant 8 mois de temps s'attraper et tout ça. Mais malgré tout, je me disais peut-être que ça changera et tout ça. Et puis, et ça n'a pas changé du tout. On s'est mariés et il m'a mis à traire les vaches, 15 vaches le soir, parce que son père ne pouvait plus les traire. Il avait été mis dehors chez les patrons. Alors naturellement, me voilà dans les vaches, moi que je détestais ça. Je ne pouvais pas dire pas lui dire de ne pas remplacer son père. Il y avait la mère, je dis, merde, qu'est-ce que je fais? Alors bon, je prends les vaches. Naturellement, ça a été ramasser les pommes. Vous savez ça, les pommiers?
Oui.
Ramasser les pommes. J'étais enceinte. C'est pas compliqué. D'abord, j'étais enceinte quand je me suis mariée. De peu. Enfin, j'étais enceinte. Et c'est pas compliqué. À chaque année des pommes, pour ramasser les pommes, j'étais enceinte.
Voilà. Ah oui?
Oh là. Ah oui, oui, oui. J'ai eu ma fille, bon, qui est née à terme, si l'on peut dire, parce que je suis mariée au mois de juillet et elle est née au mois de mars. Alors, donc,
oui, ça a été vite, hein, dis donc. Hein.
Oui. Alors donc, bon, voilà. Après ça, j'étais enceinte de l'année d'après. Enceinte, les pommes, pas d'accouchement, mais une fausse couche, deux jumeaux. Naturellement, remise à traire les vaches très rapidement. De nouveau enceinte l'année d'après. Là, j'ai eu ma fille Nadia, et puis rebelote, une autre fois enceinte, je refais une fausse couche, et une cinquième fois, la rebelote, c'était enceinte, mais là, ce coup-là, c'était un garçon.
Donc, nous en sommes à trois enfants, là.
Trois enfants et deux fausses couches.
Trois enfants. Et on va marquer une petite pause, si vous le voulez bien, Colette.
Oui,
d'accord ? On se retrouve tout de suite.
Je connais le truc.
D'accord. À tout de suite. 22h46, vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39-21, chers amis, ou faire le 739-21, où vous pouvez nous envoyer vos SMS 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, où vous pouvez donc nous donner vos conseils, nous poser vos questions, vos commentaires, et nous donner votre numéro si vous souhaitez intervenir à l'antenne. Colette, trois enfants... enchaîné, hein. J'ai l'impression qu'il ne vous laissait aucun répit, cet homme.
Ah non, d'ailleurs, le docteur lui a dit comme ça, mais vous voulez la faire mourir, votre femme.
Mais oui. Est-ce que vous pensez que c'était comme ça, avec du recul, une volonté de sa part de tout le temps vous occuper à être enceinte?
Ah
en
mais
fait
oui, mais c'est ça. Il ne voulait pas... D'abord, je lui ai acheté une voiture parce que j'étais comment... J'ai touché la pension de mon père décédé. Et je lui ai acheté une voiture. J'ai dit, je vais passer mon permis. Il n'en est pas question. Tu sortiras avec. Non, je sais pas. Il a eu la voiture, mais moi je n'ai jamais conduit. Et donc, je vous disais... Il me tenait, si vous voulez. Il faisait de façon à que je ne puisse rien faire. C'était sa jalousie. Je ne pouvais absolument rien faire. J'écoutais la radio le soir, Colette vient de coucher, c'était ça. Le curé des vaches le matin et tout ça, l'hiver. Un soir, il était en train de faire les foies. Bon, ben moi, j'étais seule. Je dis, tiens, j'allais conduire une cocotte en fonte à ma belle-mère. Alors en revenant, je me suis pas pressée. Il était en train de faner les foies. Je me suis pas pressée. Mais il est tombé en panne de tracteur. Naturellement, qu'est-ce que tu fais? tu sais bien ce que je fais, j'étais partie conduire. Oui, t'as été je ne sais combien de temps, il m'a attrapé une poignée par l'épaule et monte dans le camion. J'ai dit, dis donc, j'ai dit, si t'es pas contente avec aller le trouver, le patron. Moi, j'y suis pour rien, c'est en panne. Je commence à me gendarmer, voilà.
Bien sûr.
Alors, bon, et c'était toujours comme ça.
Et combien de temps vous avez supporté ça, Colette?
Vous allez rire. Figurez-vous que j'ai supporté ça. Enfin, en 92, je suis partie.
92, donc vous êtes mariée en 58, oui. 34 ans.
Oui, mais je l'ai quitté en 92. Et comme je suis une personne très sensible, qui n'aime pas voir les gens souffrir,
oui.
Donc en 92, je suis partie, en 93, je suis revenue.
Non.
Si. Ben si, voyons, il faut bien faire les choses comme il faut.
Oui.
Tant qu'à faire. Et ça a toujours... Donc, on a acheté une maison, parce qu'on avait rendu la nôtre dans le Calvados, on a racheté une maison, et puis, non, puis c'est fini, je ne recommencerai plus, et tout le tatouage, je t'en fous.
Oui, les promesses.
Et puis, il buvait, c'est qu'il buvait, le pire, et puis alors, d'une jalousie pas possible, c'était infernal. Moi, je quand il me disait d'aller chercher du pastis, j'y allais pas, je cassais. Et quand il avait une bouteille de pastis, je lui cassais la bouteille de pastis à la maison. Et puis, je lui dis, je vais appeler le médecin. J'allais trouver le médecin. Le médecin me disait, moi, je peux pas venir tout le temps qu'il m'appelle pas. Enfin, ça a duré tout le temps comme ça, jusqu'à ce qu'on aille à Lourdes. Ben, il a s'est baigné à Lourdes, il n'a plus remué. Mais ça n'empêchait pas qu'il était toujours jaloux. Et ce qui fait qu'un jour, il avait un appareil pour entendre, quoi. Un appareil acoustique. Et il y avait un petit moment qu'il l'avait. Et puis, comme on était on avait changé de ville, puis plutôt que d'aller à Valence, on était sur Livron, j'ai dit, écoute, moi je me dis dans moi-même, je vais appeler celui qu'on était à Valence, je lui ai demandé combien il prenait, et il me dit le prix, et puis à Livron, je demande le prix, alors c'était moins cher. Alors j'ai dit, bah, écoute, t'as qu'à prendre Livron, puisque c'est moins cher, j'ai téléphoné à Valence, alors bon, il prend Livron. Mais quand on était sortis du magasin, il m'a laissé sortir de la ville. Puis quand on a été sur la route, là, il s'est dit, oui, tu veux pas, y a rien à faire, tu peux pas t'empêcher, il faut que tu racontes toujours les choses. J'ai dit, écoute, on va quand même pas payer plus cher, puisqu'il est moins cher, celui-là. Oh, puis il s'est mis à gueuler comme un homme dans la voiture. Quand on est, je lui ai dit, t'es pris que de colère. Je te l'ai attrapé par le kiki. Et puis j'ai dit, tu me fous la paix, tu la fermes. Parce que si tu vas voir, tu vois, elle est belle. Mais il y a eu un trou, il s'est dit, on va me foutre la gueule dans le fossé. Mais ça l'a calmé, mon vieux.
Combien de temps ça l'a calmé? Parce que...
Ah, mais ça a repris, ça recommence après. Hein. Et ça a été tout le temps comme ça, tout le temps que j'ai vécu avec lui. Il est décédé. Qui dorment en paix, mais on a quand même trouvé le moyen de faire nos noces de diamants.
Vos? Ah oui, d'accord, ok.
Vous vous rendez compte?
Et ça, c'est lui qui vous a amené à faire ça ou
Ah, mais j'ai pas eu le droit aux noces d'or, parce que les noces d'or, comme j'étais partie à un an, alors, ça faisait pas 60 ans, ça faisait pas 50 ans, ça. Alors, non, pas les noces d'or. Il n'a pas voulu que j'ai fait. Alors, mais alors les noces de diamant, bon, il était malade, on les a fêtées ici, là, dans le Calvados. Et puis, voilà, ça a été toute ma vie comme ça. Et je me demande. Je crois qu'il fallait que, bon, je suis certaine qu'il fallait toujours que je sois sous sa coupe.
Oui, il était jaloux. Il était jaloux,
c'était sa jalousie. Il n'y avait rien à faire. Alors moi, c'est pour ça que je vous raconte ça. parce que bon, je m'en suis tirée, il aurait très bien pu, puisqu'il avait 10 ans de mariage, il me tenait par le kiki, il voulait m'étrangler. Ah oui, puis il a vu son ancienne chérie et correspondant avec lui. Moi, je ne savais pas, c'est le facteur qui m'a apporté de l'être recommandé une fois et je croyais que c'était une chaîne, vous savez.
Oui.
Puis en lisant la lettre, je me suis dit, ça parle de moi. Puis il me dit le facteur. Le facteur me dit, mais vous n'avez jamais reçu de lettres. Parce qu'il m'avait dit, j'en mets souvent des lettres, là, venant de Belgique. Je n'ai jamais reçu. Alors, c'était son ancienne chérie qui lui écrivait tout le temps. Et je crois même qu'ils ont eu 2 enfants ensemble. Et là, c'est pareil, je me suis gendarmée. Et puis, il s'est trouvé, pas licencié, il s'est trouvé muté dans le Calvados, parce qu'il travaillait dans un camp de munitions. Et il s'est trouvé muté à Caen. Et il m'a demandé ce que je comptais faire, s'il voulait qu'on aille sur Lyon ou qu'on reste à Caen. Et comme il faisait la route Caen, je dis, il va se casser la gueule sur la route. Hein.
Vous vous occupiez tout le temps de lui. Et finalement, Colette, parce que le temps tourne, j'aimerais savoir, comme ça, avec du recul, j'ai l'impression que vous me parlez de cet homme, mais que vous ne m'avez jamais parlé d'amour depuis le début. On dirait que vous n'avez jamais été amoureuse de lui. Est-ce que je me trompe ?
Je crois qu'il y a eu de ça.
Vous croyez ou...
Mais c'est sûr. Il y a eu j'ai été attirée parce que c'était un beau garçon. Il était beau mec. Et je crois que j'ai été attirée plus par ça que par son amour. Parce que c'était pas possible de vivre un amour comme ça.
Et non, c'est parce que vous me paraissez assez... libre dans votre tête, vous, cette joie de vivre dont vous me parliez je pense qu'elle elle dénotait complètement avec le tempérament de cet homme. On dirait qu'il l'a...
Complètement éteinte.
Éteinte, oui.
Ouais. Ah oui, c'est certain, il m'a éteinte complètement. Et c'est pour ça que je vous raconte ça, parce que pour faire comprendre aux femmes qui... une jeune femme qui m'écoute et en ce moment, parce que j'ai 82 ans, et qui m'écoute en ce moment, qui réfléchissent bien
à l'engagement.
À l'engagement.
Ce que veut dire l'engagement, en fait.
Parce
que ce n'est pas un engagement...
Non, parce que quand vous ramassez des claques sur la figure, déjà, au bout de 6 mois de mariage...
Ah ben là, oui. Non, mais là, c'est... oui. Il n'a jamais été violent avec vous ?
Ah oui, bien sûr que si.
Ah bon ?
C'est ce que je vous dis, quand il m'a présenté à ses parents, j'ai ramassé une claque parce que je m'étais allongée sur le lit qui était dans la cuisine où tout le monde mangeait. J'allais pas faire de mal à personne. C'était lui, son frère, je veux bien, mais on n'allait quand même pas coucher avec son frère, non ? Alors j'ai ramassé une claque. On est parti. Et puis... on est reparti sur Paris, mais ça, alors avec 10 ans de mariage, c'est pareil, j'ai ramassé une claque, non, il me tenait au kiki, et c'est mes 3 enfants qui l'ont arrêté, papa, arrête,
oui.
Alors donc il s'est arrêté, et puis avant de partir à Lyon, eh bien, il avait reçu une lettre de sa chérie, là, et il connaissait l'écriture. J'ai dit, pourquoi tu l'as ouverte ? J'ai dit, tu n'avais pas à l'ouvrir, cette lettre. J'ai dit, tu sais que tu savais l'écriture, tu sais l'écriture, tu savais qui c'était. J'ai dit, tu n'avais qu'à me laisser l'ouvrir. Alors, un mot en a emporté un autre. Et bien, il m'avait coincé dans l'angle du buffet et du mur. Il me tenait par le cou, par le kiki, et le poing levé.
Oui.
J'ai dit, Colette, si tu ne parles pas, si tu ne dis rien, tu y passes.
Oui.
Alors j'ai dit, Marcel, arrête. Alors là, il s'est arrêté. Et puis bon, la maison est en train de se refaire, la maison. Ça s'est arrêté. On est parti à Lyon. Et puis Mais ça a toujours, toujours continué.
Mais est-ce, voilà. est-ce que ça a traîné, parce que vous m'avez dit, je suis parti au bout de 32 ans, en 80...
Non, oui, entre 32 ans, mais, et que je suis revenu.
Et vous êtes revenu combien de temps?
Eh bien, il reste 30 jours, il est mort il y a 2 ans, et je suis resté avec lui jusque-là.
Vous vous rendez compte? Donc, des regrets, Colette, des regrets?
Parce que il était à l'hôpital, j'étais avec lui, je suis une personne très...
Vous savez quoi, Colette? Parce que je ne veux pas que on vous coupez en pleine explication, donc on va laisser passer l'info sur Europe, et puis on se retrouve juste après pour que vous me parliez du reste, de ses regrets, de toute l'analyse que vous faites de tout ça. À tout de suite. C'est un hasard que Colette nous appelle ce soir, jour du départ de Jacqueline Sauvage.
Oui.
Et puis avec Gisèle Halimi qui nous a quittés aussi dernièrement. Deux symboles de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et on voit Colette, j'en parlais avec Victor, en vous écoutant, on se disait toute cette vie passée... Dans la violence, en fait, parce que la violence, elle était physique de la part de Marcel, mais elle était aussi psychologique. Elle n'a jamais cessé d'être, en fait.
Ah non, c'était... Il y avait des moments où il y avait un peu de calme, mais c'était sans arrêt. C'était pas une semaine sans guirlande, d'ailleurs. Quand je voyais qu'il passait d'un côté... je regardais d'autres par où j'allais passer, moi. C'était comme ça.
D'où elle venait, cette violence, à votre avis?
Je vais vous dire, il a fait l'armée.
Oui.
Bon, alors, est-ce que... Il s'est engagé, déjà.
Oui.
Et donc, il a fait 4 ans d'armée. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il était comme ça? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est que c'était un homme jaloux et qui supportait pas que la femme soit... Fallait que la femme soit...
Soumise.
Soumise à sa botte.
Oui.
Voilà.
Souvent, ces hommes, et il y en a dans tous les milieux, hein, je le rappelle, on peut les trouver dans le milieu ouvrier comme on peut les trouver dans les hautes sphères de la société. Souvent, c'est assez mystérieux.
Pour moi, j'ai pensé que c'était un homme narcissique.
Oui.
Il faisait un peu ce genre d'homme comme ça.
Oui, mais qui manquait cruellement de confiance en lui. Parce que lorsqu'on est jaloux comme ça, c'est qu'on manque profondément de confiance en soi. Et donc, on reporte sur l'autre...
Voilà.
Tous ces doutes, quoi, en fait. C'est terrible.
Tout à fait, c'est ça.
C'est maladif, hein, je pense.
Ah oui, mais c'est certain, c'est maladif. Il aurait fallu qu'il se fasse soigner. Et malheureusement...
Est-ce que ça se soigne, ça, en fait, à votre avis?
Je ne sais pas. Mm-hmm. Non, parce que ça doit revenir. Et puis surtout que la boisson, c'est
terrible.
La pire des choses...
Et vos enfants dans tout ça, comment s'en sont-ils sortis?
Les enfants, il ne s'est jamais pris à ses enfants.
Ils ont été quand même témoins de ces violences,
oui.
Vous m'avez dit.
Mais je vais vous dire une chose. Quand je suis partie en 92 et que j'ai demandé à mes enfants de m'aider, il n'y en a aucun qui a voulu m'aider. Les trois m'ont dit comme ça, tu veux t'en aller, tu veux divorcer, et bien...
Nous,
on n'a pas à entrer là-dedans, c'est vos affaires, débrouille-toi. Voilà. Je n'ai pas eu d'aide de mes enfants. Et le comble de tout, c'est qu'on est parti, on a quitté la Drôme, il a voulu qu'on revienne dans le Calvados, et il m'a mis chez ma fille aînée, mais qui a un caractère pas du tout facile. Et je suis pareil qu'avec le père, parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Voilà. Alors, c'est comme ça, ce qui fait que je crois que je vais... avec tout ça, moi j'ai fait 4 tentatives de suicide.
Ben oui.
Ben oui, parce que j'en avais marre. Et puis je me suis loupé à chaque fois.
Et est-ce que aujourd'hui qu'il est parti, même si...
Et vous me demandiez tout à l'heure que pourquoi... je ne sais plus ce que vous m'avez demandé, et je voulais vous répondre.
Des regrets,
comme
en fait.
Je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je n'ai pas voir les gens souffrir.
Oui.
Et c'est pour ça que à chaque fois, je...
Vous avez eu pitié de lui.
Voilà, j'avais pitié de lui. C'était plus fort que moi.
C'est fou, hein, voilà. Ça.
Ah oui, c'est fou, hein, c'est incroyable.
Oui. Oui, mais c'est souvent, hein. Souvent, les femmes réagissent comme vous avez réagi, c'est-à-dire il y a les enfants, il y a tout un contexte qui
voilà,
tout un contexte qui fait que qu'on reste.
Et là,
mais
dans
en fait.
Le coup, parce que ce qui se passe maintenant, ben, il est parti. Je suis toute seule. Bon, ma fille est à côté, mais je suis toute seule. Je ne sors pas. Je ne peux plus conduire. J'ai la vue qui commence à baisser de plus en plus. Ce qui fait que, ben voilà, la vie est passée et j'adorais danser. Oh mon Dieu, ça a été fini tout ça.
Ben oui, ouais.
C'était ma vie. Bon. Toutes les semaines, j'étais au bal. Quand j'étais jeune, c'était mon plaisir. C'était ça.
Et est-ce que vous qui avez aujourd'hui 82 ans, Vous sentez que les mentalités ont évolué et que les femmes aujourd'hui osent plus partir en fait?
Je pense que oui, mais c'est pas toutes.
Pas toutes. Ouais.
Oh non, 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 non. Parce que c'est toujours pareil. Il y en a qui ont peur. Combien? Écoutez, vous faites comment agresser, ils vous battent et tout ça. Mais ce qui est pire, agresser encore une claque, un truc comme ça, vous pouvez le prouver, ça. Mais ce qui est pire, c'est moralement, quand on vous insulte, quand on vous rabaisse tout le temps, ça c'est impossible de le prouver.
Oui.
Vous ne pouvez pas. Alors, ce qui fait que... Il n'y avait rien à faire. J'ai vécu jusqu'à son décès l'année dernière, au mois d'octobre, et je l'ai veillé toute la nuit. Je suis restée avec lui. C'est pour vous dire, vous voyez que... Et quand vous m'avez demandé si je l'aimais, mais non, j'avais l'impression que je ne l'aimais pas, mais malgré tout, quand il est décédé, j'ai été
triste.
Malheureux. Bah, ah
oui, oui.
C'est incroyable.
Bah, il ne s'est pas passé quelque chose d'anodin entre vous. Vous avez fait 3 enfants.
Ben oui.
Vous avez vécu 42 ans ensemble.
Voilà.
Donc on ne peut pas faire une croix du jour au lendemain. Il y a, quelque chose sûrement d'explicable, hein, mais... Il y a un lien.
Je pense que les gens qui m'écoutent, ils doivent se dire, mais elle est cinglée, celle-là. C'est pas possible, rester avec un homme qui était jaloux, qui lui fichait sur la figure, qui me menaçait surtout. Il m'insultait, comme par exemple, il me traitait de gargouillamite. Vous voyez le genre de compliments qu'il me faisait. C'était ça. Et de pas... Et de partir et revenu. Vous avouerez quand même, les gens, ils vont rire.
Non, je ne pense pas que ça prête à rire ou à sourire.
Non,
je pense que...
Celles qui m'écoutent, il faut qu'elles pensent à elles et qu'elles n'hésitent pas à partir. Il faut qu'elles partent et qu'elles ne reviennent pas.
Souvent, vous savez, hein, lorsque je croise des femmes qui vivent des violences, c'est, on évoque la première claque, le premier coup le premier, même, le premier rabaissement, vous voyez, vulgaire.
Et c'est là qu'il faut partir.
Tout de suite. Oui. Tout de suite.
Je l'ai entendu. Hein.
Mais oui, et c'est bien évidemment que. Alors, c'est plus vite dit que possible à faire, parce que voilà. Partir.
Parce que j'avais
c'est,
pas d'argent.
Ben voilà. Voilà, toutes ces femmes. Mais aujourd'hui, ne croyez-vous pas que si nous avions tout un dispositif pour accueillir ces femmes, pour les protéger.
Voilà, voilà.
Si nous avions un dispositif beaucoup plus répressif envers les hommes qui commettent ces violences. Je le dis souvent ici sur cette antenne, mais si un homme sait qu'en portant la main sur sa femme, il peut dormir le soir même en garde à vue pendant 48 heures, je peux vous dire que ça pourrait... Et puis qu'il peut aller en prison.
Oui,
ça peut changer la donne. Il y a des pays où ça se passe comme ça. Et
là, qu'est-ce qu'on fait en France ? Les gens d'armes viennent, là, on prend la femme, on la tire, on va la mettre dans une maison pour qu'elle soit au calme et tout ça.
Au mieux, Colette, parce que je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, en France, il faut qu'une femme ait le nez cassé ou l'arcade sourcilière ouverte, qu'elle saigne pour qu'il se passe quelque chose.
Mais on va lui faire quitter la maison. C'est pas lui qu'on va sortir de la maison. Lui, il va rester dans la maison.
Alors aujourd'hui, il y a certaines mesures, il y a certains procureurs, selon les régions, qui mènent cette politique d'éloigner l'agresseur de la maison.
Mais on reste
l'un des pays où les féminicides sont le taux de féminicide est le plus élevé. Et ça, ça traduit notre côté laxiste, une politique pas assez ferme et pas assez répressive pour ces violences.
C'est certain, il faut ne fait rien pour la femme, rien.
On commence à faire, mais ce sont des trop petits pas, vous voyez. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ce sont des initiatives qui ont peu d'envergure et puis on tâtonne. Alors qu'on a des modèles à côté de nous, pas plus loin que l'Espagne. L'Espagne mène depuis 4 ans maintenant une politique beaucoup plus dure. Et il y a des résultats aujourd'hui mais phénoménaux en Espagne. Et nous, on est à côté et on fait rien.
En tout cas, on
bouge. Mais il y a beaucoup, beaucoup de paroles. Hein. Beaucoup de paroles et peu d'actes.
Exactement. Et là, par contre, j'ai ma fille, la seconde. J'étais partie en vacances avec elle et son mari, et on s'est trouvés toutes les deux dans la voiture. Elle m'a dit, tu sais, maman, moi, si il m'arrive un jour quelque chose comme ça, je ne resterai pas avec mon mari. Moi, je m'en irai. Et c'est ce qu'elle a fait. Hein.
Ah oui.
Elle avait son mari. Je pense qu'il la frappe pas, mais il buvait. Et ben, elle a trouvé quelqu'un, elle est partie avec. Et ils sont toujours ensemble, ils sont mariés.
Ben voilà.
Voilà.
Et elle est plus heureuse.
Ah ben c'est certain, ils sont heureux tous les deux et je suis bien contente que ce soit passé comme ça.
Mais vous savez, je ne sais pas si vous avez vu sur les murs en France tous ces collages qu'il y a, faits par une association avec des phrases ou des faits qui parlent de ces violences faites aux femmes. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer deux jeunes militantes de cet organisme qui fait ça et qui me disaient, tenez-vous bien, en fait, elles se font insulter régulièrement lorsqu'elles collent leurs phrases comme ça sur les murs. Et ce qu'elles collent est souvent arraché par des garçons et de jeunes garçons même.
Ah oui, c'est certain. C'est pour ça que c'est pas passé. Parce que vous vous rendez compte, c'est des jeunes garçons qui arrachent ça. Donc la mentalité est toujours la même. Alors ça n'en finira jamais si ça continue. Et c'est pour ça que moi, ce soir, j'ai voulu témoigner pour dire aux femmes, je vous en supplie, si un homme est jaloux, qui vous insulte, qui vous frappe, mais ne restez pas et partez. Faites pas
et puis il y a un numéro hein, pour toutes ces femmes, si elles veulent être conseillées, accompagnées. 39-19. N'oubliez pas, mesdames, mesdemoiselles, parce qu'il y a aussi de très jeunes filles qui prennent des coups aujourd'hui, à 15 ans, 16 ans. Le 39-19 peut vous sauver la vie. Vous sauver la vie. Parce qu'un homme qui frappe...
Il recommencera.
Et puis c'est surtout qu'un homme, d'un coup, il peut tuer une femme.
Ah ben bien sûr.
Donc, pas de patience pour ces hommes-là, pas de compassion. S'ils veulent se faire soigner, alors ok, un peu de compassion pour ces gens-là, en leur disant, ok, faites-vous soigner. Mais il y en a tellement qui ne se remettent pas en question et qui ne veulent pas se faire soigner. C'est un vrai problème que nous vivons en France à ce niveau-là. Et c'est un problème qui n'est pas simplement franco-français, des violences conjugales, il y en a partout. Mais nous devons d'être à la hauteur de ce que la France déclare être, le pays des droits de l'homme et donc des droits de la femme. Et là, pour l'instant, les droits de la femme, on n'y est pas.
Non.
Merci Colette, en tout cas, de nous avoir appelé.
Je voulais vous dire, je ne vous ai pas dit le prénom de mon mari.
Marcel.
Et je ne vous ai pas dit son prénom.
Si, vous m'avez dit Marcel tout à l'heure, mais peut-être ai-je mal entendu.
Ah, parce que je ne me rappelais pas. Je me suis dit, est-ce qu'on va peut-être trouver le prénom de mon mari?
Mais oui, si vous, c'est vous qui m'avez dit. Je ne suis pas...
Non, je
n'ai pas encore la corde, Madame Irma, pour cette libre antenne.
Je ne vais pas vous dire davantage, parce qu'il y a des personnes qui sont là, et puis d'un sens comme d'un autre, ça ne sert à rien de rabâcher toujours la même chose. Donc je vais vous laisser prendre les autres personnes qui attendent, et je vous souhaite une bonne soirée. Et
je vous embrasse, ma Colette.
Mais moi de même, et ainsi qu'aux autres, aux personnes qui sont à l'antenne.
Très bien.
Je vous dis, passez une bonne nuit.
Passez une bonne nuit, vous aussi.
Et continuez à donner du bien-être aux gens à qui on peut téléphoner.
Très bien. Je vous embrasse, Colette. Passez une bonne nuit. Merci mille fois pour votre témoignage. Au revoir.